Marina dans deux contextes socioculturels différents. Et donc, on abordera les questions de représentation et de construction de la guérison dans ce contexte-là, et comment cette guérison-là, cet enjeu-là, est enchâssé dans des aspects relationnels au sein de la structure hospitalière, économique et politique. Donc, je vous remercie et bonne session.
Merci. Bonjour, donc moi je vais vous parler des expériences de prise en charge et de guérison des échappées belles dans les hôpitaux de Dakar. Alors, c'est une analyse qui est en cours, donc c'est aussi des pistes, si vous avez des idées, enfin des remarques, ça sera très sympa. Alors, rappelons pour commencer que la mortalité maternelle reste un problème de santé publique très important en Afrique et que l'Afrique de l'Ouest n'échappe pas à la règle avec un très lourd tribut porté par les femmes. Alors malgré l'annonce d'une diminution globale de la mortalité maternelle, le Sénégal, comme d'autres pays, reste en matière de mortalité maternelle parmi les pays les plus touchés de l'Afrique subsaharienne. Alors lors de cette communication, je vais vous parler des expériences de prise en charge des échappées belles. Alors l'expression échappée belle ou near miss en anglais désigne toute patiente ayant survécu à une morbidité obstétricale grave par chance ou grâce aux soins appropriés. Donc c'est une femme qui a été sauvée, guérie, peut-être qu'on pourra revenir sur la pertinence de parler de guérison, d'un événement médical critique qui est en lien avec la grossesse, l'accouchement ou la période postpartum. Alors les causes qui font que ces femmes sont des échappées belles les plus fréquentes sont des hémorragies graves avec un état de choc, des infections sévères, des dystoxies, c'est-à-dire des ruptures utérines, des éclampsies ou des anémies décompensées. L'avantage de travailler avec les échappées belles, c'est que ce sont des témoins vivants qui nous permettent une investigation sur la mortalité materno-fétale et d'évaluer la qualité des services et vraiment en direct. Parce qu'on peut aussi avoir accès à des données, soit en interrogeant si les femmes sont décédées, soit en interrogeant la famille, soit en faisant le point avec le staff médical. Mais bon, je trouve que c'est un peu délicat. Alors, l'angle d'approche de mon étude est le suivant, c'est que les expériences de prise en charge thérapeutique et de guérison des échappées belles s'inscrivent, d'après moi, dans un continuum plus large que le seul moment de la guérison, de l'événement médical critique où la femme et où le nourrisson risquent de décéder. Alors mon étude vient compléter, dans toutes les recherches que je fais, je me pense toujours on va peut-être pas dire en harmonie, mais en tout cas en cohérence avec en collaboration avec mes collègues qui travaillent sur cette même thématique. Alors mon étude, elle vient compléter des travaux déjà réalisés par d'autres chercheurs qui ont travaillé au sein des structures, notamment hospitalières. Et mon étude se situe en amont. Alors, aux travaux, je pense, et je ne le dis pas parce qu'il est là, mais je pense notamment aux études restituées dans le livre dirigé par Yannick Jaffré, qui s'appelle, si vous ne le connaissez pas, il est sorti en 2009, Yannick, ouais, je crois, qui s'appelle « La bataille des femmes ». Donc c'est super parce que véritablement ça décrit ce qui se passe dans les structures hospitalières de manière très détaillée. Donc là on est vraiment au cœur de la crise, si on peut dire, quand il faut faire en urgence donner des soins aux femmes, voilà. Donc vous pouvez même le faire circuler si vous le souhaitez. Alors donc c'est vraiment une recherche complémentaire. Alors mon étude, elle a été menée sur un groupe de 82 femmes, donc je vous les présente là rapidement pour que vous puissiez voir un petit peu de qui il s'agit, donc ça descend après, donc, si vous voulez, ouais. Dont 23 sont des échappées belles. Alors nous avons réalisé, le choix a été de réaliser des entretiens dans différents quartiers de Dakar, afin d'avoir un éventail assez large de profils socio-économiques représentés. Alors cette étude, elle est fondamentalement qualitative, mais il y a quand même eu le souci d'essayer de restituer, de faire en sorte que cet échantillon soit représentatif de la diversité de la population des femmes résidentes à Dakar. Alors concernant les échappées belles, lors de la dernière mission, nous avons fait, je dis nous parce que j'ai travaillé avec une étudiante en maîtrise de sociologie à Siendai qui m'a assistée et qui parlait Poular et Wolof. Nous avons travaillé avec le docteur, nous avons un docteur, le docteur Ba, qui est médecin réanimateur dans un hôpital et qui a accepté de travailler avec nous sur cette étude, notamment nous présentant des échappées belles. Voilà, donc c'était très intéressant parce qu'il y a eu une ébauche d'interdisciplinarité. Et puis, entre guillemets, c'est un peu mieux placé parce que c'est lui qui les récupère véritablement à la fin. Donc, voilà, donc toujours avec le consentement des femmes de participer à l'étude. Alors, je vais m'attacher tout au long de cette communication à partager finalement les récits d'expériences reproductives de ces échappées belles. On a bien sûr, je ne sais pas si les couleurs n'apparaissent pas, mais en fait, c'est vraiment les dernières. J'ai appuyé sur quoi ? Je ne sais pas.
Clic à gauche.
Clic à gauche ?
Non.
Et je fais ça ?
Je ne sais pas maintenant, tu veux faire quoi ?
Je veux descendre. Bon, c'est pas grave. C'est à la. C'est...
Tiens, regarde.
Oh. Ah ouais, super. Super. Voilà, donc c'est vraiment à la fin que voilà que nous avons fait un ensemble d'entretiens avec des échappées belles. Voilà, les 14 dernières, je crois qu'il y en a 14. Et puis, bien sûr, lors des entretiens avec des femmes qui n'étaient pas identifiées en tant qu'échappées belles, on a découvert bien sûr certaines qui avaient eu cette expérience, qui étaient des échappées belles en fait. Voilà. Alors, seront soulevées tout au long de cette communication une série de questions, c'est pour ça que je vous ai prévenu en disant que c'est vraiment quelque chose qui est en cours d'analyse et pour lesquelles je n'ai pas encore les réponses. Alors, afin de rendre, on va dire, plus intelligible une réalité qui, somme toute, est assez complexe, du fait d'un enchevêtrement de causes, de logiques, qui participent à cette mise en situation de vulnérabilité très élevée au risque de morbi-mortalité materno-fœtale, j'ai commencé à établir des situations types de mise en situation d'exposition au risque donc de morbi-mortalité materno-fœtale, et situations qui ont conduit à ce vécu d'échappée belle. Alors, ces situations, enfin le niveau de ces situations est souvent en lien bien sûr avec un niveau socio-économique, c'est souvent en lien oui, avec un niveau de situation socio-économique, et dont la prise en charge, la qualité même de la prise en charge est elle aussi corrélée à ce niveau de socio-économique de la femme. Alors on verra tout au long de la présentation de certains cas qu'il y a des profils de prise en charge qui se détachent complètement. Voilà, qui fait que contre toute attente, alors que on va dire que tous les facteurs semblent positifs pour que tout se passe bien pour la femme, il va y avoir un élément qui va faire que ça va déraper et qu'elles vont vivre quelque chose de très difficile et donc être des échappées belles puisque malgré tout elles vont s'en sortir. Alors, la qualité de la prise en charge, généralement elle est définie si on observe les différents cas par l'attention accordée à la patiente, tant dans sa demande de prise en charge, dans l'accord de donner les soins aussi, dans la rapidité de la prise en charge médicale, et puis la qualité des soins donnés, tant au niveau technique que relationnel, et l'assiduité du personnel soignant à finalement aussi sauver la personne, et pas dire « bon ben, on va lâcher quoi ». Alors le type de prise en charge dont les femmes font l'objet dépend d'un ensemble de facteurs, dont ceux cités précédemment, mais aussi d'autres comme la présence de la famille auprès de la femme lorsque l'événement critique se déroule, la capacité de la famille à pouvoir mobiliser aussi des ressources d'ordre matériel, c'est-à-dire concrètement de l'argent, mais aussi immatériel, c'est-à-dire un réseau de connaissances. Donc le must, c'est de connaître quelqu'un qui fasse partie du personnel médical où la femme est prise en charge, et ce qui semblerait assurer bien sûr une plus grande efficacité et puis qualité de la prise en charge. Il y a aussi, et nous le verrons par la suite lors d'un exemple, il y a aussi quelque chose qui joue un rôle assez important, c'est la capacité de la femme à se positionner comme actrice de ce qui est en train de se dérouler pour elle, et donc de se sentir en droit de contester, d'une part, de ce qui se passe, de dire, bon, ben voilà, de les houspiller, si on peut dire, c'est houspiller, on dit oui, ça se dit ce mot, je crois, voilà, de les houspiller, et de dire, ça suffit, quoi, voilà, et puis de réclamer des soins plus appropriés, des décisions d'ordre médical justes, voilà. Alors, parmi les femmes que nous avons interviewées, certaines ont pu être dans une situation d'exposition à un fort risque de mortalité maternelle, alors qu'elles n'étaient pas a priori dans ce type de situation. Alors, c'est dans ces cas-là, ce qu'on s'aperçoit, un événement ou un enchaînement d'événements qui fait basculer l'état de la femme d'une situation à moindre risque à un risque élevé de mortalité maternelle. Alors, si l'on s'en tient aux seuls facteurs économiques et géographiques, par exemple, donc proximité de l'hôpital, c'est quand même important, ou de la clinique, du lieu de résidence de la femme, et de la qualité des soins qui sont donnés par cette structure, on s'aperçoit que ceux-ci ne garantissent pas une expérience de l'accouchement de la femme à 100% sans risque. Je vous donne le cas d'Assy, qui a eu une fille à l'âge de 29 ans. Alors, pour décrire le profil, Assy, elle a 33 ans au moment de l'étude. Donc, elle a cette petite fille qu'elle a eue à 29 ans. Elle est assistante sociale et donc elle a un niveau d'études, c'est important, qui est Bac plus 3. Elle est célibataire. Bon, celle-ci devait accoucher dans un hôpital renommé pour la qualité de ses soins. Tous les frais étaient pris en charge par le papa du bébé à venir. Et puis, le jour où elle a commencé à avoir des contractions, à 8 heures du matin, elle s'est rendue à l'hôpital, mais comme il n'y avait plus de place, ils ont décidé finalement de lui faire une injection pour retarder la dilatation du col de l'utérus et donc l'accouchement en attendant d'avoir une place libre. Voilà. Donc elle est rentrée chez elle, mais les douleurs étaient insupportables, les contractions continuaient et elle ne pouvait s'empêcher de pousser, voilà, puisqu'il y avait vraiment les contractions. Or, la dilatation du col ne se faisait plus. Alors, souffrant beaucoup, elle s'est donc rendue rapidement à l'hôpital de son quartier, qui n'était pas véritablement réputé pour avoir des soins de qualité, et elle a été mise en attente. C'est ça, c'est le truc, elle est mise en attente. Et c'est seulement le lendemain à midi qu'elle a été prise en charge pour son accouchement. Bon, alors dans son module d'assistante sociale, elle avait eu un module santé, et elle s'est aperçue qu'elle commençait à perdre du liquide, sûrement le liquide amniotique, qui était verdâtre. Donc, elle a interpellé les sages-femmes, stagiaires, qui l'ont dit, ben non, on vous a dit que c'était pas encore le moment. Et donc, voilà, il y avait un ordre qui était défini, c'est pour elle, c'était décidé que c'était pas le moment. Et donc, elle avait aussi un module de droit. Et donc, elle les a menacés de porter plainte pour non-assistance en personne à danger. Et puis, elle leur a dit, mais véritablement, elle m'a expliqué, elle a dit, mais regardez le liquide qui coule, là, je pense qu'il y a vraiment urgence médicale. Donc, elle leur a expliqué, c'est assez fou comme situation, mais qu'elle devait sûrement avoir besoin d'une césarienne. Donc, c'est elle, finalement, qui a fait son autodiagnostic, qui a senti qu'elle était vraiment en danger, que le bébé était en danger, et donc elle leur a demandé et imposé qu'elle lui fasse une césarienne. Alors, elle souligne en même temps que les infirmières étaient super désagréables et que la responsable n'était pas présente. Voilà. Alors, les éléments positifs qui ont joué en faveur de la survie d'Assy de son bébé, ce sont pluriels. D'une part, bon, je vous l'ai dit, dans le cadre de ses études, elle a vu certains modules, santé, droit, qui ont fait qu'elle avait des armes en sa possession pour un petit peu prendre la situation en main. Elle a su diagnostiquer qu'elle était véritablement en danger. Et puis, elle avait aussi la somme d'argent pour payer les frais d'accouchement. Voilà, ce qui est aussi assez important. Alors, une autre chose importante, c'est qu'au moment de passer au bloc, c'est que finalement, sa cousine l'avait accompagnée et c'est elle qui a dû aller faire l'achat de tout ce qu'il fallait pour faire l'accouchement. Voilà, sinon, ça se faisait pas non plus. Alors, il y a parfois un ensemble d'éléments qui se combinent finalement. Et qui fait que pour certaines femmes qui, a priori, la situation ne les place pas dans une situation à haut risque, qui fait que cela peut très vite se transformer en situation à haut risque de mortalité maternelle. Bon, là, en l'occurrence, le fait des infirmières de bloquer le col de l'utérus, la dilatation du col de l'utérus, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Après, une équipe, finalement, dans le deuxième hôpital d'infirmières, de sages-femmes assez laxistes, voire absentes, la responsable n'était pas là. Donc, face à ces mises en situation de vulnérabilité forte, il y a un ensemble d'éléments qui lui a permis à elle de se sauver, finalement, et de rester en vie. Et là, pour moi, ça nous parle aussi de cette capacité de résilience de la femme, finalement, quel que soit aussi son niveau d'études, à mon avis. Voilà. Alors, en même temps, on peut noter que des incidents peuvent arriver et avoir une influence sur le déroulement de la prise en charge de l'échappée belle, et ce, indépendamment des conditions de vie de la personne, de sa capacité à mobiliser les ressources dont elle dispose, et de neutraliser les obstacles, donc indépendamment de sa situation de vie. Alors, il faut quand même garder en tête que, bien sûr, lorsqu'on parle de mortalité maternelle, de ces soucis-là, il y a toujours, bien sûr, une dimension organique, biologique, À mon sens, je crois pour les gens qui travaillent là-dessus, la mortalité maternelle est à l'interface du biologique et du social. Alors je pense notamment à Sietou, qui est une jeune femme avec qui on avait fait une interview et qui était, c'est ce que je disais à Yannick, une des meilleures amies de mon assistante, qui était très bien suivie dans une très bonne clinique et elle est décédée. Elle a fait une éclampsie lors de son accouchement, en fait. Voilà. Alors, la mise en situation de la vulnérabilité de la femme peut être aussi liée à une négligence lors du suivi de la grossesse. C'est le cas, par exemple, pour Rose, dont j'aurais voulu vous parler plus longuement, mais voilà. Alors, elle a eu un suivi tout au long de sa grossesse. Il y avait un gynécologue obstétricien qui la suivait, mais c'est souvent la sage-femme qui lui faisait les consultations prénatales. Lors de la première consultation prénatale, la sage-femme lui a pris la tension. Elle avait une tension déjà élevée, mais il y a une négligence, je ne sais pas si elle a zappé l'info ou pas noté, bon bref. Donc lors de la deuxième et de la troisième consultation prénatale, elle ne lui a pas repris l'attention, donc ce qui fait qu'elle devait être sûrement une personne à risque, potentiellement avec la psy. C'est ce qui s'est passé en fait. Elle a fait une éclampsie avec un coma de 5 jours et elle a été sauvée de justesse ainsi que sa petite fille, quoi. Je pourrais y revenir un peu plus tard, 5 minutes, voilà. Alors il y a aussi les femmes, bien sûr, qui font le choix, au-delà du risque de morbidité très élevé, du fait d'une pathologie connue, parce qu'elles veulent véritablement notre enfant. Et c'est le cas de Kumba, qui, elle, a accouché d'un enfant mort-né, qui avait fait le choix d'avoir une nouvelle grossesse, malgré les risques qu'elle encourait et qu'elle connaissait. Elle avait un fibrome qui pouvait lui déclencher une hémorragie, donc son obstétricien lui a dit que c'était fini pour elle. Et Kumba, en effet, a persisté, donc elle a fait une hémorragie grave avec un état de choc, mais elle a eu une prise en charge très efficace, une présence de sa famille auprès d'elle, alors c'est pas son obstétricien qui s'est occupé d'elle, il n'était pas là, et puis véritablement une équipe soignante qui n'a pas lâché, c'est ce qu'elle m'aurait situé. Bon, elle a eu pas mal de sang, donc transfusion de sang. Mais, ce qui joue aussi en sa faveur, c'est que sa famille avait pas mal d'argent, en fait. Cet accouchement a duré 10 heures. Ils ont dû extraire le bébé à la force de leurs bras avec beaucoup de difficultés. Alors là, je vous le dis, parce que c'est un peu terrible, c'est tout cela sans anesthésie. Il y a aussi toute une partie de la souffrance dont on ne tient pas compte finalement souvent. Donc Kumba a perdu beaucoup de sang et elle dira, c'était vraiment, je me demandais pourquoi on échappait belle aussi, et elle me dira, mais oulala, j'ai vraiment échappé belle, quoi. Donc je ne sais pas si c'est d'elle que vient ce mot, je ne sais pas si Yannick, toi tu as une explication sur l'origine de ce mot. Alors en fait, l'idée c'est que son obstétricien n'était pas là ce jour-là, mais parce qu'ils auraient dû faire une césarienne et que ça a été, ça par contre, une erreur médicale. Alors, en fait, il me reste combien de temps ? Je sais pas. En fait, j'ai commencé.
Un peu moins de 5 minutes.
D'accord. Alors, très rapidement. En fait, j'ai commencé à établir, au vu des différents cas, des situations types, donc de mise en situation au risque de morbide, mortalité materno-fétale. Je vais vous donner finalement les deux situations extrêmes. La première, des situations de type de mise en situation mise en vulnérabilité très élevée au risque de morbide mortalité materno-fétale pour plusieurs raisons et finalement qui ont également, ces femmes-là, bénéficié d'une prise en charge de très mauvaise qualité. Je prends le cas de Cady qui nous montre qu'un suivi de mauvaise qualité lors de sa dernière grossesse, conjugué à un niveau économique peu élevé, fait qu'elle s'est retrouvée dans une situation extrême à ce risque. Alors, elle est un des cas qui illustre le profil de femme qui présente cette vulnérabilité très élevée. Cady, elle n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge immédiate et de qualité. Elle avait 47 ans lorsque nous l'avons rencontrée et cela faisait moins d'un an qu'elle avait accouché d'un enfant mort-né avec une complication d'éclampsie. Alors Cady avait déjà eu 6 enfants, avec des grossesses sans complications. Elle avait accouché dans le même hôpital près de chez elle dans le quartier de la Médina et lors de sa dernière grossesse, lorsqu'elle a rendu visite à une amie, son amie lui a dit « Mais je pense que tu ne vas pas bien, tu as vraiment une sale tête, quoi. » Voilà, donc elle s'est rendue à un premier hôpital et qui lui a dit, alors je répète ces mots, que son liquide sentait mauvais et qu'il ne pouvait pas la prendre en charge, puisque bien sûr, ils n'ont pas tous la capacité de faire des césariennes. Et donc, elle a été envoyée à notre hôpital, lui disant qu'en effet, il fallait qu'on lui fasse une césarienne, mais l'hôpital lui demanda 250 000 francs CFA et qu'elle n'avait pas. Et donc, ils l'ont mise à la porte de l'hôpital et elle a dû repartir. Elle s'est rendue dans deux autres hôpitaux, mais qui n'étaient pas équipés pour faire la césarienne. Et c'est finalement, je dis le nom, à l'hôpital principal de Dakar, où ils se sont occupés d'elle, voyant son cas très urgent. Et elle a fait en même temps une crise d'éclampsie. Donc ils ont fait une césarienne, ils ont retiré le bébé qui était un bébé mort-né. Alors la deuxième situation à l'extrême, c'est les situations de mise en vulnérabilité très élevée au risque de morbi-mortalité materno-fétale, mais qui ont bénéficié d'une prise en charge de bonne qualité. Alors qualité en grande partie déterminée par des facteurs d'ordre socio-économique et du réseau auquel elles appartiennent. Alors là, je vais prendre le cas de... J'ai fini ?
Non,
deux minutes. Je vais prendre le cas de Rose. Alors Rose, elle a été mise je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Rose a été mise en situation à risque très élevé à cause d'une négligence professionnelle. C'est d'elle dont je vous parlais tout à l'heure. La première CPN, on lui prend l'intention, on s'aperçoit que c'est quand même élevé. Mais la deuxième et la troisième, on ne lui prend pas. Voilà, elle est arrivée alors c'est un petit peu un manque de chance, donc il y a une histoire de chance aussi qui fait ça. Elle est arrivée très douloureuse à l'hôpital où elle était suivie, son obstétricien n'était pas là. L'infirmière a décidé que c'était pas le moment, donc elle lui a fait une injection pour retarder l'accouchement. Et puis en fait, il s'avère que finalement, chemin faisant avec la tension très élevée qu'elle avait, elle est rentrée chez elle et le lendemain, elle a fait une crise d'éclampsie avec convulsions, etc. C'est sa sœur qui est rentrée, ça c'est une histoire de chance aussi, qui était infirmière, est rentrée et qui l'a choquée, enfin qui lui a tapé pour le relancer parce qu'elle avait fait un arrêt cardiaque. Et donc elle a été amenée à l'hôpital de Philippe Maguilène Senghor, qui a une super équipe. Et ils l'ont de suite prise en charge, ils lui ont fait une césarienne, ils ont sauvé la petite et Rose est restée dans le coma pendant 5 jours. Quoi, voilà. Donc elle a basculé alors que tout était en place, son mari était pharmacien, donc connaissant bien le réseau médical, tout a basculé à cause d'une négligence. Voilà. Je fais la conclusion. Voilà. Alors, bien sûr. Alors là, elle a eu deux enfants. Là, maintenant, Rose, elle nous dit qu'elle veut plus d'enfants parce que la pauvre, elle a vraiment trop peur de mourir. Hein. C'est vrai que généralement, quand on sort de ce genre de choses, on a un petit peu peur. Voilà. Alors, en conclusion, rapidement, en fait, tout ce que nous pouvons analyser comme des facteurs qui prédisposent à ce que tout se passe bien pour la parturiente et le nouveau-né ne présuppose pas systématiquement du bon déroulement de la grossesse et de l'accouchement. Quoi. Il peut y avoir Ross aurait normalement dû très bien se passer. Assietou qui est décédé, cela aurait dû bien se passer. Mais il y a des éléments, des facteurs organiques, biologiques, et puis des aléas qui viennent s'insérer dans le processus et qui ne sont pas très bons. Alors, donc finalement, on peut dire que même au sein d'un système de combinateurs de variables qui a priori positionne la parturiente dans une situation de faible vulnérabilité au risque de mortalité maternelle, il peut exister un événement, un élément, une conduite, bref, un facteur qui peut faire basculer celle-ci dans une exposition au risque. Je pense aussi à une autre personne qui est suivie pour une grossesse de manière régulière et puis elle commence à avoir des douleurs, elle est douloureuse, c'est la période du Ramadan, elle se rend dans l'hôpital et là c'est une dame qui la reçoit, elle explique son cas et en fait les infirmières, les sages-femmes sont en train de se reposer parce qu'elles sont fatiguées, parce que c'est Ramadan, tout ça. Et donc elle, la dame qui la reçoit est aide-soignante et elle décide de lui faire une injection pour lui calmer les douleurs. Donc en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a retardé la dilatation du col de l'utérus. Voilà. Et donc, à un moment donné, alors qu'il était urgent de la prendre en charge, finalement, elle n'arrivait pas à coucher et le petit bébé est mort. Enfin, le bébé est mort in utero, puisque c'était trop tard. Alors, je finis en disant qu'en fait, pour moi, donc je suis en train d'analyser, donc c'est un peu brouillon peut-être ce que je vous présente. En fait, je pense que cette analyse, elle se situe à deux niveaux. D'une part, les facteurs qui concourent à une mise en situation d'exposition plus ou moins élevée à ce risque de morbidité materno-fétale, et puis les autres facteurs qui vont définir un type de prise en charge de l'échappée belle. Et que ce n'est pas forcément, à mon sens, les mêmes, sauf peut-être ce qui est commun, c'est le niveau socio-économique. Voilà, je vous remercie. Merci.
Alors, est-ce qu'il y a des questions ?
Oui.
Merci pour l'intervention. Très intéressant.
Merci.
J'ai déjà une question de détail sur les. Je ne suis pas du tout au courant sur les injections qui retardent la dilatation. Est-ce que ça existe dans des procédures ou est-ce que c'est une initiative locale ? Et j'ai une deuxième question sur les dossiers. Est-ce que les femmes, notamment celles qui présentent des risques, ont des dossiers ? Est-ce qu'elles se présentent avec des dossiers ? Est-ce qu'elles ont un historique ?
D'accord. Alors, je suis sociologue, je suis pas médecin.
Tu peux répondre ? Moi, je suis sage-femme, donc si tu veux.
Ah oui, d'accord, oui. D'accord.
En fait, je pense que ça devait être du salbutamol, qui est une molécule qui est utilisée aussi en France en cas de menace d'accouchement prématuré, ou une femme qui se présente à la maternité, on pense que c'est un faux travail, et on peut faire une injection de salbutamol qui, généralement, stoppe ou calme les contractions, la patiente peut repartir chez elle ou rester hospitalisée.
Voilà. Et donc la personne, l'aide-soignante, en plus, c'est pas du tout son job. Hein. Elle n'est pas normalement, elle doit pas faire ça. Elle y connaissait sûrement rien. Et voilà. Et donc la personne avait commencé son travail. C'est pareil pour Rose, la dame dont je vous ai parlé, où sa sœur est infirmière. En fait, sa sœur a bien vu que sa Rose avait commencé son travail, quoi. Et donc elle n'avait pas compris pourquoi elle avait reçu aussi une injection, quoi. En fait, c'est un peu voilà. Alors, je crois, mais là Yannick peut-être venir renforcer ma réponse. Je ne crois pas qu'elles arrivent avec leur dossier médical. Hein. Il y a eu un gros travail pour que normalement il y ait un suivi de fait par les hôpitaux, hein, les cliniques, que ça soit fait, que les dossiers des femmes soient gardés. Mais vraiment, je ne crois pas. Hein. Yannick, toi, tu as un retour par rapport à ça ? Est-ce qu'elles arrivent comme ça avec
un... On avait travaillé sur les dossiers. C'est vraiment enfin, ce que tu as vu aussi en Mauritanie à propos des enfants, c'est-à-dire que le problème, c'est que normalement, il y a un système, alors qui est un système complètement idéal, qui est le système qu'on voit tourner dans toutes les institutions type OMS, UNICEF, etc., et dont certains de mes amis avaient regardé que, en fait, si on suivait toutes les procédures mises en œuvre proposées par l'OMS, en fait, on accroissait très largement le risque de décès maternel ou le risque de décès infantile. Il fallait surtout sauter toutes les étapes et ne pas suivre les systèmes de référence officiels. Mais en fait, très souvent, les femmes, elles arrivent dans des structures périphériques, même quand elles viennent directement dans des structures de soins obstétricaux d'urgence. Et quand elles viennent de la périphérie, elles sont acheminées dans, la désorganisation la plus totale. Elles arrivent sur des banquettes, des fois en charrette, des fois en vélo, sur des banquettes de taxi, donc absolument sans dossier.
Sans rien, ouais.
Quand elles sont suivies, tout le problème, c'est que la maternité ne fonctionne pas comme un système expert. Mmh. Et donc, il n'y a pas d'équivalence de personnes par rapport à des équivalences de soins. Et donc, quand une femme, soit elle arrive en étant déjà préconnue dans la structure, et donc à ce moment-là, éventuellement, il y a une sage-femme qui a son dossier et qui peut la suivre avec un dossier qu'elle a, vraiment qui est presque son dossier personnel, ou alors la dame est anonyme et à ce moment-là elle n'a pas de dossier. Et voire même quand elle a un dossier, comme il n'y a pas d'armoire et qu'on n'a pas l'habitude de ranger et d'archiver les données, les dossiers sont posés comme ça, et quand ça tombe par terre, on remet comme ça. Et dans certains cas que moi j'avais pu observer, on remet éventuellement par exemple le groupe sanguin d'un dossier dans un autre, même quand c'est pas le bon. Donc il n'y a pas de dossier qui suive historiquement. Il n'y a pas de dossier qui soit utilisable dans l'urgence. Il n'y a pas de pensée, enfin, sans plus théoriser, il n'y a pas de pensée distribuée là-dedans. Donc,
c'est le cas de Kumba, la dame qui a priori était suivie tout ça. Le jour où elle est arrivée, son obstétricien n'était pas là et elle n'a pas eu accès au dossier alors que c'était quand même dans la même clinique, etc. Donc, voilà, même dans les mêmes structures. si ça vous intéresse.
Je ne fais pas de la pub pour lui, mais vraiment, là, c'est très bien écrit, toute cette histoire de dossier qui se perd, de ce que décrit Yannick. Quoi. C'est vraiment c'est insupportable.
Si oui. Pour la pub, t'as rajouté, c'est en téléchargement. Non,
mais c'est, si ça vous intéresse. C'est vachement important.
Voilà, vous tapez La bataille des femmes et c'est, vous y accédez gratuitement sur un site.
Il
n'y
a pas de système de carnet de santé, en fait.
Pour les enfants, plus pour les vaccinations, hein. Après, pour les femmes.
Si, pour les femmes, normalement, puisqu'il y a les consultations prénatales où les facteurs de risque devraient être dépistés. Le problème, c'est qu'il y a un terme qui reste, qui est consultation prénatale, et dans les gens, c'est CPM. Mais en fait, la CPM est utilisée par les femmes comme elles connaissent parfaitement le risque majeur. Et le risque majeur, c'est d'être anonyme dans la structure de santé. Donc, elles pallient le risque en allant dans les CPM, non pas pour être dépistées sur les facteurs biologiques, mais pour réduire leur inexistence sociale. Et donc, elles vont contacter une sage-femme, elles vont dire « Tu vas devenir ma sage-femme, combien tu veux pour ça ?» À ce moment-là, elles vont payer, c'est de l'ordre de 15 à 20 000 CFA. Et à ce moment-là, elles disent « Tu deviens ma sage-femme. » Et en général, quand on dit à une sage-femme « Tu deviens ma sage-femme », quand il y a des classes d'âge qui le permettent, on va dire, on va commencer par l'appeler Tanti. Et donc, on inclut la personne dans une relation d'obligation familiale ou de parenté. Et à ce moment-là, quand la femme sent qu'elle va être, qu'elle est sur le point d'accoucher, elle téléphone à sa sage-femme pour faire un accouchement privatisé, donc qui la protège, dans une structure publique où elle est anonyme. Si elle n'a pas le temps de mettre en œuvre cette procédure, ou si elle ne l'a pas anticipée, en fait, elle est anonyme dans une structure. Comme c'est une urgence obstétricale, elle n'a jamais le temps de reconstruire un lien d'existence. Et à ce moment-là, elle décède,
elle peut décéder
simplement par inexistence sociale.
Oui.
Parce que comme elle n'existe pas, personne ne s'occupe d'elle. C'est une espèce de... C'est implacable. Ça fonctionne tout le temps comme ça, depuis 15 ans, 20 ans.
Oui. Là, je vous ai, j'ai pas eu le temps de vous citer un cas, mais aussi une jeune femme qui... Alors, c'est marrant parce qu'elle est l'ébou, donc elle a fait peur aux infirmières. En fait, elle arrive et vraiment toute menue, mais très grosse, le bébé, en fait, faisait 5 kilos, c'est énorme, quoi. Et les autres l'ont négligée parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle arrivait qu'une personne et tout. Et en fait, une sage-femme la connaissait, ou une infirmière, mais elle n'était pas là, donc ça se passait dans la nuit. Et donc, elle ne s'est pas laissée faire, elle a commencé à être un peu insultée, les sages-femmes, les infirmières, tout ça. Elle lui a dit, toi, là, c'est demain qu'on s'occupera de toi, tu restes là. Mais c'est dangereux, parce qu'elle réglait ses comptes, quoi. Et elle a commencé à faire une convulsion. Et alors, elles avaient vu qu'elles étaient les boues. Donc, les boues sont censées avoir, comme si elles avaient un truc un peu magique, pouvoir. Voilà. Donc là, les infirmières ont commencé à avoir peur en disant, c'est une boue, elle va nous faire quelque chose, quoi. Mais la chance qu'elle a eue, c'est qu'entre-temps, et heureusement, l'amie de la personne qu'elle connaissait est arrivée. Alors, je ne sais même pas si elle n'était pas aide-soignante, simplement. Le brancardier, et c'est à eux deux qui l'ont accouché. Parce que sinon, elle allait mourir. Hein. Donc, elle décrivait que le brancardier, c'était, je crois, même assis sur elle. Enfin, des trucs de fou, quoi. Avec les coudes dont on n'a plus le droit hein, de pousser. Enfin, voilà. Donc, voilà. Mais elle était connue de personne, ou d'une femme qui n'était pas là. Enfin, c'était un peu la folie. Et puis, c'est de l'urgence, quoi, en fait. Hein. C'est vrai que, voilà, on est dans l'urgence.
Excusez-moi. Donc,
c'est fini.
Je vous remercie en tout cas pour ces échanges qu'on pourra poursuivre à l'extérieur. Et donc,
Non, c'est...